Alors, au cours de cette étude sur les raisons de croire en Dieu, de croire en sa parole, la Bible, on a vu beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à présent. Et on était en train de voir, avant cette période de Noël, eh bien, cette spécificité de la Bible à prédire des événements futurs avec une certaine exactitude, de pouvoir regarder à travers la Bible, à travers l'histoire, comment eh bien la parole de Dieu eh bien s'est accomplie à plusieurs reprises. Et la dernière fois, on avait vu hein, les prophéties concernant la crucifixion de Jésus-Christ et la période à laquelle il devait venir et s'offrir comme sacrifice pour l'humanité. Et on va continuer aussi donc avec ces prophéties messianiques. Et ce soir, je vous propose de regarder dans le psaume 22 cette prophétie du roi David concernant le Messie. Et ce psaume 22, bon, il est fort intéressant parce que effectivement, nous voyons des versets qui, pour ceux qui ont beaucoup lu déjà le Nouveau Testament, il y a des choses qui, ah tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part, j'ai déjà vu ça quelque part. Et effectivement, ce psaume 22 de David, on retrouve eh bien des prophéties concernant donc le Messie, particulièrement sa mort. Et donc les évangiles, mais aussi les historiens de l'Antiquité nous rapportent que Jésus, à un moment donné, donc, a été arrêté, qu'il a été jugé, condamné, torturé, mis à mort sur une croix, et qu'il est mort. Et dans les évangiles, nous lisons au sujet de sa résurrection. Dans certains historiens de l'Antiquité, ils font ce commentaire comme quoi ben, ses disciples croyaient fermement qu'il était ressuscité des morts. Mais pour en venir justement à la mort de Jésus-Christ et à ce type d'exécution, on comprend bien que la crucifixion a consisté à clouer le condamné sur le bois. C'était une exécution qui était atroce et horrible, et de nombreux peuples à travers l'Antiquité pratiquaient déjà des supplices qui étaient semblables, qui ressemblaient beaucoup à cela. On a toujours cette idée que bon, ce sont les Romains qui ont inventé la crucifixion, mais le fait de mettre quelqu'un à mort en le clouant hein, sur un poteau, ça existait déjà bien avant cela. Et donc on voit même à travers certaines découvertes archéologiques de nombreux peuples donc pratiquaient cela en employant un simple pieu hein, comme un instrument de mise à mort hein, et on retrouve ça sur des bas-reliefs par exemple en Assyrie chez les Perses les Carthaginois mais aussi les Égyptiens hein, parfois on attachait simplement le condamné, on le suspendait à un poteau hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Par rapport aux Égyptiens, vous vous rappelez peut-être, j'ai mis le verset là de Genèse 40, avec le serviteur hein, du pharaon qui avait été condamné hein, à être quoi, pendu à un bois, donc suspendu à un bois. Bon, on n'a pas les détails exacts de comment ça se pratiquait. Mais on comprend bien qu'à travers l'Antiquité, c'était un supplice qui était quand même assez répandu. Pour les Israélites, il faut aussi comprendre que quand quelqu'un était pendu au bois, ainsi, quand quelqu'un était supplicié de cette manière-là, eh bien, ce genre de mort était vu vraiment comme une grande malédiction. Dans Deutéronome chapitre 21, les versets 22 à 23, on lit que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et ça, c'est quelque chose qui est fort intéressant, hein, de comprendre cela par rapport à cette conception que les Juifs avaient sur ce type de supplice. Et de voir que ben, Jésus, lui, a été crucifié donc sur un poteau, sur une croix hein, qui l'a amené donc à mourir, et que aux yeux des Juifs, ça, c'était une malédiction. C'était une malédiction. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est terrible déjà comme mort, mais toute l'image qui était associée à ce type de mort, où on voyait vraiment que une personne qui était condamnée à un tel supplice était vraiment vue comme le rebut de la société, pratiquement. L'apôtre Paul, dans Galates 3,13, nous rappelle également hein, de cette malédiction hein, que Jésus a connue à cause de nous. Hein. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire que lui-même, en mourant sur la croix, il a accepté d'être vu comme quelqu'un de maudit. Et même, hein, on verra aussi par rapport à ce psaume 22, hein, que lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris notre péché. Hein, le sacrifice d'expiation qu'il a apporté sur la croix, il a pris notre péché sur lui. Et donc la malédiction de mourir sur la croix, c'était déjà, on va dire, dans la société, quelque chose qui était vraiment vu comme quelque chose d'horrible et terrible. Mais d'un point de vue théologique, d'un point de vue spirituel, la mort sur la croix pour Christ, elle a été horrible dans les deux domaines, le domaine physique de la mort, mais je dirais même les trois, hein, le domaine quelque part émotionnel aussi, d'être rejeté par le peuple et vu comme quelqu'un de maudit, mais aussi le fait d'avoir pris notre péché sur lui. Et donc on en arrive donc à ce psaume 22, psaume 22, un psaume de David. Et dès le deuxième verset, on en arrive à cet événement justement où ma Christ est devenu malédiction pour nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes, est écrit ici dans ce psaume 22. Le verset 17. Verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde tout autour de moi. Notez bien, ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 18, je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Donc on pourrait prendre le temps de lire tout le psaume 22, mais ce qu'il faut comprendre dans ce type de ce qu'on appelle de prophétie messianique et surtout dans les psaumes, on a quand même, c'est David qui parle. David, il est aussi en train de parler de sa situation à lui, mais on comprend bien que ces choses-là, ça correspond pas à lui. Et donc, pour nous, en prenant ce passage et au vu de ce que nous lisons concernant eh bien, la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, on établit ce lien. Hein, quelque part, ce sont des prophéties cachées. Il y a des prophéties qui sont, on va dire, ouvertes. Hein, on va ouvrir, par exemple, le livre d'Ézéchiel, et puis alors là, c'est un livre prophétique, et puis voilà, on a les prophéties hein, sur la fin des temps. Les psaumes, encore une fois, ce sont à la base des chants du peuple d'Israël pour la célébration du culte à Dieu hein, que David et d'autres ont composé et écrit. Mais dans certains d'entre eux, on va trouver ici et là quelques versets qui sortent un peu du lot. Mais parce que nous avons cet apport, on va dire, d'informations que le Nouveau Testament nous donne, on comprend de qui il s'agit. Je crois que pour les personnes qui, de cette période-là jusqu'à l'avènement du Messie, hein, quand Christ est venu sur terre, je ne pense pas qu'ils comprenaient exactement de qui il s'agissait ici. Les disciples l'ont compris. Parce que une lecture des évangiles nous font comprendre immédiatement ce lien entre le psaume 22 et la crucifixion de Jésus-Christ. Si on regarde dans Matthieu 27, 46, par exemple, il nous est dit que vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on établit déjà ce premier lien. On établit ce premier lien entre ce psaume 22 et la mort, la crucifixion de Jésus-Christ. Et on comprend que ici, David, lorsqu'il a rédigé ce psaume, il était en partie en train de parler de ce que le Messie allait subir. Dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, chapitre 19, versets 31 à 36, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Alors ça, c'était aussi une coutume pour accélérer le processus de mort. Parfois, on brisait les jambes des condamnés pour qu'ils meurent étouffés plus rapidement, parce qu'ils n'ont plus de soutien. Et quand il n'y a plus le soutien des jambes, ben c'est les bras qui doivent tenir, et tout le poids du corps vient et ça comprime et ça étouffe la personne. Et donc les soldats, verset 32, vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Okay? Alors, on revient hein, brièvement à ce psaume 22. Et ce psaume 22, où il est question justement que, eh bien, je pourrais compter tous mes os. Hein, c'est l'idée que tout était intact. Aucun des os de Christ a été brisé au moment de sa mort. Le verset 34 rappelle également qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et donc avec ça, il savait qu'il était mort, qu'il n'y avait pas besoin de lui briser les jambes. Hein, celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Aucun de ses os ne sera brisé. Et donc, en regardant donc à ce psaume 22 et en regardant donc à la crucifixion de Jésus, on comprend ici donc que ce psaume 22 est un psaume en partie une prophétie messianique concernant hein, la mort de Jésus, le fait qu'il serait percé, que ses pieds et ses mains seraient percés. Donc, les historiens, tout comme les auteurs du Nouveau Testament, confirment le fait que Jésus de Nazareth est bel et bien mort sur une croix, les pieds et les mains percés. Sa mort a été extraordinairement rapide par rapport aux autres, ce qui a éliminé donc cette nécessité de briser les os comme c'était la pratique chez les Romains pour accélérer la mort. Hein, cette lance qui a été enfoncée donc sur le côté, c'était pour qu'ils vérifient hein, qu'il était bien mort. Hein, je sais que autour de la Pâque, on a beaucoup de prédications sur la crucifixion. Et souvent, c'est les choses qui sont rapportées dans les prédications sur le fait que déjà, bon, les soldats romains étaient quand même les plus aptes à savoir si quelqu'un était mort ou non. Un soldat qui participe à des combats, il a intérêt de savoir si le coup qu'il vient de donner, c'est un coup mortel ou non. Et ils étaient capables hein, de déterminer ce genre de choses-là. Mais ce psaume 22 nous amène justement à encore une autre prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce psaume, hein, il est question hein, du fait que effectivement hein, le Messie hein, était celui qui aurait donc les pieds et les mains qui étaient percés. Mais on a aussi une prophétie de Zacharie concernant celui qu'ils ont percé. Zacharie était un prophète qui a exercé son ministère vers 520 avant Jésus-Christ. Hein, c'est la période du retour de l'exil babylonien. Et ce livre de Zacharie est vraiment considéré comme étant à la fois le plus messianique hein, dans ses prophéties, le plus apocalyptique, si vous voulez, hein, le plus eschatologique, c'est-à-dire qu'il parle à la fois du Messie, de son retour, des choses futures concernant la fin des temps, mais de tout l'Ancien Testament, voilà, ce livre de Zacharie est regardé ainsi par beaucoup de commentateurs. Mais c'est dans le chapitre 12 de Zacharie que nous voulons porter nos regards ce soir, brièvement. Dans le 12e chapitre, Zacharie parle d'une période où Israël va être attaqué attaquée par diverses nations, mais protégée et délivrée par la main puissante de l'Éternel. Et ici, la plupart des commentateurs reconnaissent ce passage de Zacharie chapitre 12 comme étant eschatologique, c'est-à-dire parlant des choses concernant la fin des temps, des choses futures. Et dans ce chapitre, il prophétise notamment, eh bien, la repentance de la nation d'Israël et le fait que la nation d'Israël, reconnaîtra en Jésus-Christ le Messie que Dieu avait envoyé. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce chapitre 12, eh bien, c'est le verset 10. Le verset 10 nous donne un détail, et encore une fois, c'est souvent ces petits détails qui nous mettent un peu la puce à l'oreille et nous aident à faire cette connexion. Mais le verset 10 nous dit qu'à ce moment-là, l'Éternel répandrait sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. On retrouve ici ce que Jean a mentionné dans ce chapitre 19 que nous avons lu quelques versets il y a quelques instants sur la crucifixion de Jésus-Christ. Celui qu'ils ont percé. Le verbe qui est employé ici dans la langue hébreu, c'est le verbe dakar, c'est un terme qui signifie percer, transpercer, mais vraiment qui implique cette idée qu'il y a une mise à mort qui s'ensuit. C'est-à-dire vraiment, c'est percer pour tuer. Et donc vient cette question, qui est donc celui qui a été percé? Qui est donc cette personne que le peuple d'Israël va finalement tourner ses regards vers celui qu'ils ont percé? Alors déjà, revoyons un peu les choses depuis le début. Si vous regardez dans Zacharie 12, le verset premier nous dit « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Donc si on continue de lire tout ce chapitre, vous remarquerez que c'est toujours l'Éternel qui est en train de parler. Zacharie, il est en train de transmettre cet oracle de l'Éternel, mais dans les paroles, dans les propos qui nous sont donnés dans ce chapitre 12, c'est l'Éternel qui parle. Et donc c'est l'Éternel qui déclare, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors comment Dieu, qui est esprit, peut-il être percé? Comment Dieu, qui est éternel, peut-il même mourir? Comprenons bien que à cette période-là, pour le peuple d'Israël, ils n'ont pas encore cette idée que Dieu pourrait venir en tant qu'homme, devenir homme et être celui dont on parle ici dans Zacharie. Alors certains vont peut-être avancer l'idée que c'est peut-être une métaphore en fait. L'idée qu'ils ont percé Dieu, c'est en rapport peut-être avec leur rejet du Dieu d'Israël, du Dieu éternel. Mais franchement et sincèrement, pour moi, il y a trop de correspondance entre ce que nous lisons dans les évangiles qui nous est rapporté, que les disciples, les apôtres établissent ce lien entre ces prophéties de l'Ancien Testament et Jésus-Christ, il y a trop de correspondances pour que ça ne soit qu'une métaphore. De même, il y a trop d'éléments concordants pour que ça ne soit qu'une coïncidence. D'ailleurs, récemment, j'ai visionné quelques vidéos de chrétiens qui font de l'évangélisation, des chrétiens d'origine juive qui font de l'évangélisation en Israël. Et bon, il y a plein de choses intéressantes. Mais dans l'une de ces vidéos, on les voit qui cherchent à interpeller leurs compatriotes. Et dans ces vidéos, bon, ils discutent et puis à un moment donné, ils citent un passage et ils demandent aux gens de leur dire d'où vient cette citation. Et il cite ce passage de Zacharie. Ici, ce passage de Zacharie où il est question, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et il leur demande d'où cela vient. Et les gens répondaient, oh, ben, ça c'est dans la Bible des chrétiens, c'est dans le Nouveau Testament, ça. Hein. C'est parce que pour eux, dans leur logique, celui qui est percé, c'est Jésus-Christ. Et ces gens étaient sous le choc lorsque ces chrétiens leur disent, non, ça c'est le prophète Zacharie qui a prophétisé ça. Et là, on les voit essayer de chercher à comprendre, essayer de trouver une autre solution possible par rapport à cela. Mais instinctivement, leur réponse a été de dire, ah, ben ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans la Bible des chrétiens, c'est de Jésus-Christ dont il est question. Et donc, sachant tout ce que Jésus-Christ a dit de lui-même, de ce que ses disciples ont proclamé et écrit à son sujet, sachant également qu'il a été donc crucifié, cloué sur le bois, que ses mains, ses pieds ont été percés par les clous, le côté transpercé par une lance, on ne peut pas regarder à ce passage, que ce soit celui du psaume 22 ou ce passage de Zacharie 12, 10, on ne peut pas regarder ça autrement que comme des prophéties concernant Jésus-Christ. Jésus avait déclaré en Jean 10, 30, moi et le Père sommes un. Rappelez-vous, Zacharie 12, c'est l'Éternel qui parle. Jean 14, 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. À plusieurs reprises, Jésus a proclamé qu'il est Dieu. Il le fait d'une manière qui est peut-être pas pour les gens dire, ah ben il n'a pas dit ouvertement, je suis Dieu. Mais excusez-moi, mais quand il s'attribue lui-même les mêmes attributs que Dieu, quand il est en train de dire, le Père et moi sommes un, quand il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, et que les Juifs étaient prêts à le lapider pour blasphème parce qu'il se faisait égal à Dieu, il a proclamé qu'il est Dieu, Jésus-Christ. Galates chapitre 4, versets 4 à 5, nous lisons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Quand on lit bien le Nouveau Testament et qu'on étudie ces prophéties concernant le Messie, on voit ces liens qui sont évidents une fois qu'on a cette information concernant la vie de Jésus-Christ. Et ce passage de Zacharie 12-10, même s'il est eschatologique, qui parle des choses qui nous sont encore à nous futures, qui parle de Christ, hein, de celui qui a été percé, hein, qui sera finalement reconnu par Israël dans un temps futur, eh bien comme étant le Messie. Et donc, puisque Jean lui-même établit ce lien entre la prophétie de Zacharie et la crucifixion de Jésus-Christ, que Christ a été percé, eh bien, quelque part, cette prophétie de Zacharie, elle est double, n'est-ce pas? Parce qu'elle parle de choses encore eschatologiques par rapport à nous, elle parle de choses eschatologiques même par rapport à Jean lorsqu'il a écrit son évangile, mais Jean a utilisé ça pour montrer que le Messie est celui qui a été percé, mis à mort. Et donc cette prophétie, quelque part, elle est double. Elle parle en premier donc de ce temps futur, hein, de la réconciliation d'Israël avec l'Éternel, mais parle aussi du fait que le Messie a été percé. Et encore une fois, dans notre optique, nous sommes en train de regarder à ces passages pour les raisons pour lesquelles on peut croire en Jésus-Christ, qu'on peut croire en ce que la Bible dit, parce que ces prophéties, hein, ce sont des prophéties qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Et on a tellement d'autres prophéties, hein, qui concernent Jésus-Christ, qui ont été accomplies au moment de sa venue sur Terre, lors de son incarnation. Et là aussi, hein, l'incarnation, ça explique comment, eh ben, ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel, celui qu'ils ont percé, un mot qui est employé pour définir, eh bien, une mise à mort par un objet qui transperce, qui traverse un corps. L'incarnation de Jésus-Christ explique cela. Parce que de ce que l'on lit dans le Nouveau Testament, Dieu en Jésus-Christ, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui a été créé, n'est-ce pas? Dieu qui s'est fait homme. Et Jésus donc possède cette nature divine et une nature humaine. Il est le seul et c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Mais c'est justement par rapport à l'objectif de sa venue, le sacrifice d'expiation. Il fallait quelqu'un de parfait. Il fallait que ce soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous, on ne pouvait rien enlever. On aurait pu être, dire, moi, je veux bien me sacrifier pour l'humanité, mais ça aurait même pas couvert mes propres péchés. Ça aurait rien couvert du tout. Et donc, il fallait que Dieu vienne en tant qu'homme et qu'il soit mis à mort, transpercé, qu'il subisse toutes ces choses, qu'il soit même à cause de notre péché, abandonné du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Des centaines d'années auparavant, David, Zacharie nous parle déjà de la manière dont il allait mourir et de ces détails en le concernant. Et il a été percé. Rappelez-vous un de Thomas qui avait douté, le Seigneur Jésus qui vient vers lui, dit, touche mes mains, touche mon côté.